pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue. Si je vous parle de pollution des océans, vous viendra peut-être à l'esprit l'image de ce 7e continent de plastique entassé dans les océans, sorte d'amas de bouteilles, de sacs plastiques, de bidons qui tourbillonneraient sans fin. Et si la pollution de nos océans était d'un autre genre? Et s'ils étaient plutôt malades de microplastiques, de petites particules de ce matériau que l'on sait nocif pour notre planète? Nous en parlerons tout à l'heure avec le consultant suisse Julien Boucher, qui a coécrit une étude sur le sujet pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais d'abord, les océans et leurs habitants souffrent des bruits qui les poursuivent. Des bruits créés par les hommes qui résonnent de plus en plus fort. Bateaux, forages, sonars et même éoliennes viennent rompre le silence de ces étendues de calme. Et surtout, perturbent les animaux marins. Nous recevons deux chercheurs qui s'inquiètent de cette pollution sonore et s'intéressent à son impact sur la faune.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Isabelle Charrier.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste en bioacoustique, c'est l'étude des communications animales. Merci d'être venue dans notre studio. Et bonjour Hervé Glotin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences de l'information et des systèmes au sein du CNRS, ainsi qu'à l'université de Toulon. Alors, si les mères avaient des oreilles, qu'entendraient-elles, Isabelle Charrier?
Beaucoup de choses. Des sons, on va dire, naturels et puis des sons provoqués par l'activité humaine, et c'est là le problème.
Vous étudiez les pinnipèdes, donc les mammifères marins que sont les phoques, les otaries, les morses. Qu'est-ce qui vous inquiète?
Alors nous, on étudie justement comment ils communiquent entre eux, quelles sont les informations qu'ils échangent et quelles sont les stratégies justement pour pallier à certaines contraintes, mais qui sont liées même à leur environnement naturel. Et on se rend compte que depuis plusieurs décennies, il y a une autre contrainte qui s'ajoute, c'est le bruit que l'on fait via les transports maritimes ou les activités humaines dans l'océan.
On parle d'écologie sonore. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'écologie sonore dans les profondeurs de nos océans, Hervé Glotin?
L'écologie sonore, c'est le respect du paysage acoustique. Le paysage acoustique, c'est à la fois le lien entre plusieurs individus d'une même espèce, mais aussi, à plus large échelle, un environnement dans lequel sont habituées les espèces et chassent, se reproduisent l'ensemble des espèces. Ce son qu'émettent les espèces est une information cruciale pour leur rencontre. Et donc, le respect de cette écologie acoustique, c'est le respect de l'ensemble de l'environnement.
Et donc, cette pollution sonore, en fait, elle gêne en particulier leur communication, Isabelle Charrier?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mammifères marins, ils vivent dans ces océans, et un petit peu le son, c'est à la fois leurs yeux et leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du son pour communiquer entre eux, se localiser, mais aussi ça leur sert à pêcher, à repérer leur proie, donc
à chasser,
voilà. Donc s'ils ne peuvent plus s'entendre, ils ne peuvent plus, on va dire, vivre normalement, plus pouvoir chasser et pêcher, et donc s'alimenter. Donc ça répond vraiment, ça empêche les fonctions vitales de ces espèces marines.
Hervé Glotin, vous documentez cette pollution sonore près de Vancouver, au Canada, avec plusieurs enregistrements. Je vous propose d'en écouter un extrait. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans cet extrait, Hervé Glotin?
Sur cet extrait, vous avez entendu un bateau, tout d'abord, qui passait assez éloigné des hydrophones, et puis une première vocalise d'orque, une seconde, une troisième. Donc en fait, un groupe d'orques a traversé la zone. Et vous avez entendu également sur cette bande les clics de ces animaux qui sont leurs sonars. Ces sonars leur permettent de chasser les saumons dans la zone. Et on a une double problématique, c'est que les bruits de bateaux vont à la fois couvrir les communications inter-individus, mais aussi le sonar de chaque individu qui leur sert à chasser ces saumons.
Cette pollution sonore augmente, vous diriez, dans cette zone près de Vancouver et puis également ailleurs dans nos océans?
Au niveau mondial, c'est un doublement tous les 4 ans du trafic maritime et des bateaux de plus en plus lourds et de plus en plus rapides. Donc vous avez à la fois en quantité, mais aussi en volume sonore, une augmentation exponentielle. Et depuis les années 80, les océans sont de plus en plus des poubelles de sons, on va dire, et les fréquences sont donc plus en plus polluées sur toutes les gammes.
Des poubelles de son, Isabelle Charrier.
Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est un vrai brouhaha. Donc nous-mêmes, par exemple, si on peut comparer au bruit de la ville, nous-mêmes, on est stressés par ce bruit. Donc on peut imaginer, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'assez flagrant et catastrophique.
Et quel impact cette pollution sonore a sur la reproduction de certaines espèces ?
Sur l'Est américain, au niveau de Cap Cod, il a été constaté que les bruits des bateaux couvraient sur plusieurs kilomètres les capacités des animaux à échanger leur chant, à écouter leur chant. Donc c'était des baleines à bosse qui se placent sur cette zone depuis des millénaires. Et aujourd'hui, les bateaux masquent les chants des baleines à bosse. Alors ces chants sont en fait des annonces des mâles pour les femelles, pour les rencontres, pour la reproduction. Donc ils ont un défi supplémentaire dans leur reproduction, c'est d'être plus fort que des bruits de bateau pour se montrer face aux femelles. C'est assez gênant du fait que ces animaux ont été largement chassés. Alors le stock est retrouvé au fur et à mesure, mais c'est encore une espèce pour laquelle il faut faire attention. Et pour la baleine bleue, nous avons les mêmes phénomènes. On a vérifié sur un site très fréquenté par ces baleines bleues avec une thèse en cours au Chili, qu'il y avait présence de champs de baleines bleues et présence également de nombreuses perturbations bateaux au même site. Et donc ça veut dire que ces champs sont également perturbés par la fréquentation humaine, alors que c'est l'espèce la plus menacée des cétacés, on va dire, avec très peu d'individus aujourd'hui.
On voit que cette pollution sonore menace aussi la reproduction de certaines espèces. Isabelle Charrier, vous co-dirigez, il me semble, une thèse assez intéressante en Australie qui concerne les otaries à fourrure.
Oui, alors en fait, c'est une de mes anciennes étudiantes qui a fait cette étude sur le bruit, donc où elle a mesuré le comportement des otaries pendant la reproduction avec en émettant des bruits de bateaux à différentes vitesses et donc différentes amplitudes de bruit. Et elle s'est rendue compte que à partir d'une certaine vitesse, donc un bruit assez fort, les otaries changeaient complètement leur comportement avec une augmentation de la vigilance. Elles ne vaquaient plus à leur activité normale. C'est-à-dire, par exemple, les mères n'allaitaient plus leurs petits, les mâles étaient plus agressifs entre eux. Et donc, tout ça génère des coûts énergétiques relativement importants et surtout que les animaux ne se reposent plus, n'allaitent plus leurs petits. Et donc, ça peut avoir un impact assez important justement sur la survie puis sur la reproduction de ces animaux.
Et cette pollution sonore prend, on l'a dit, différentes formes. Je vous propose d'écouter des bruits de chantier qui ont été enregistrés près de La Réunion. Hervé Glotin, qu'est-ce qu'on peut entendre ?
Alors, vous avez entendu des bruits de peeling, c'est-à-dire un instrument qui sert à frapper, à percuter le socle pour installer des structures qui vont porter, par exemple, cette route du littoral à La Réunion. Ces bruits de peeling sont très énergétiques. Les émissions en décibels sont de l'ordre de 160 décibels. Alors, ce qu'on sait, c'est que ces bruits très impulsifs, même s'ils sont courts, hein, par nature, vont générer des perturbations à long terme sur les cétacés. Certes, ces animaux peuvent fuir certaines perturbations lorsque ce sont des perturbations ambiantes à long terme. Par contre, des perturbations de ce type très impulsives peuvent surprendre l'animal, d'une part, et impacter le système auditif de l'animal. Donc il s'agit souvent de lésions létales. Un animal, un cétacé rendu sourd par ces impacts acoustiques, ne saura plus se diriger, ne retrouvera plus ses congénères et ne sera plus chassé, pour les odontocètes qui sont des chasseurs par biosonar.
Et comment lutter alors que les sources de bruit paraissent si nombreuses, si diversifiées ? Isabelle Charrier, que peut-on faire ?
Lutter, on peut pas empêcher de toute façon ces activités, donc c'est essayer de trouver justement peut-être des routes de trafic évitant certaines zones, notamment au moment de la reproduction des espèces, où là effectivement le besoin de communiquer entre les individus est hyper important.
Donc à certaines périodes précises.
Au moins limiter à certaines périodes, limiter peut-être les vitesses des bateaux qui génèrent forcément des bateaux qui naviguent plus vite, génèrent des bruits plus importants, donc limiter peut-être ces types de vitesse. Tout ce qui est prospection ou travaux sous-marins, effectivement, on ne peut pas l'empêcher. Ce qu'il faut, je pense, essayer, c'est de minimiser son impact.
Hervé Glotin, quelle solution vous préconisez ? On sait aussi que derrière, comme souvent, se cachent des enjeux économiques.
On pense par exemple sur le nord de l'île de Vancouver au trafic très intense de Seattle et Vancouver vers l'Asie. Ce trafic augmente, les tankers sont de plus en plus importants et 2 mois par an, nous avons la fréquentation dans le même canal de quelques individus orques qui résistent, on va dire, à cette pollution. Jusqu'à quand vont-ils résister? Et jusqu'à quand on verra le trafic augmenter? Alors c'est ces deux tendances antagonistes. On pourrait peut-être les allier, les résoudre en diminuant la vitesse du trafic, ne pas forcément dérouter le trafic en question, mais au moins assurer un certain niveau décibel maximal.
Et cette pollution sonore ne se limite évidemment pas qu'aux océans. Un article récemment publié dans la revue Nature montre que les bruits d'origine humaine sur Terre affectent les espèces jusque dans les aires protégées et menacent également leur survie, leur reproduction. Merci à vous Hervé Glotin, merci à vous également Isabelle Charrier, lanceur d'alerte sonore. Dans un instant, nous partions sur les traces d'une autre pollution, plus visuelle celle-ci, même si peu visible, la soupe plastique comme on l'appelle, qui elle aussi dénature nos océans.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Sont tout aussi nocifs. Nous allons parler maintenant des microplastiques, ces particules qui envahissent nos océans. L'Union internationale pour la conservation de la nature vient de publier une étude sur le sujet, une étude co-dirigée par le consultant suisse Julien Boucher qui travaille au sein de l'organisation Shaping Environmental Action. Bonjour Julien Boucher.
Bonjour.
Vous êtes en Suisse avec nous par Skype. Alors d'abord, les microplastiques, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on?
Alors les microplastiques, comme leur nom l'indique, c'est des plastiques, donc c'est des substances qui sont issues de l'activité humaine et qui sont micro, donc qui sont toutes petites. Alors certaines personnes conçoivent le plastique dans les océans comme le 7e continent avec des sortes d'îles de plastique qui flotteraient à la surface des océans. En réalité, justement, il s'agit plutôt d'une soupe de microparticules de plastique qui sont dispersés dans l'eau, dans certains endroits en forte concentration, dans d'autres endroits en moins forte concentration.
Et qui proviennent d'où ?
On parle beaucoup des déchets quand on parle de plastique. Alors effectivement, une large proportion des plastiques et des microplastiques dans les océans proviennent de déchets qui sont mal gérés dans certains endroits ou à certains moments. Mais il y a effectivement également d'autres sources de plastique et notamment de microplastiques qui se retrouvent dans les océans. Et c'est justement l'objet du rapport que nous venons de réaliser, c'est de montrer que ces autres sources qui proviennent par exemple de mécanismes d'abrasion, donc abrasion des pneus sur la route, abrasion des textiles, des vêtements lors du lavage ou abrasion de certaines surfaces en peinture comme les coques de bateaux ou certains bâtiments, mais également des plastiques qui sont inclus dans les produits sous forme de microbilles, par exemple dans les cosmétiques, ces agents qui sont utilisés dans des crèmes pour la peau ou ce genre de choses, sont toutes différentes sources de microplastiques qui, in fine, peuvent se retrouver dans l'eau et dans les océans.
Mais comment ces particules vont-elles jusqu'aux océans ?
Alors comment ça se passe ? C'est tout l'enjeu un petit peu de ces recherches et de ces modèles, c'est qu'on est relativement bien capable de quantifier la quantité de plastique qui est impliquée dans ce type de produit, également la quantité de plastique qui va être érodée et se retrouver dans l'environnement. Et puis après, la phase critique, on va dire, c'est de calculer la quantité qui va transiter par un certain chemin jusqu'à l'océan. Et il existe plusieurs chemins. Donc, un des chemins, ben, c'est le vent. Donc, les particules peuvent être transportées dans l'air. Mais le chemin principal, c'est le transport via l'eau. Donc, dans le cas des routes, ben, l'eau qui va lessiver, l'eau de pluie, en fait, qui va lessiver la route, qui va se retrouver dans les bas-côtés, éventuellement dans un fossé, éventuellement passer à travers des systèmes de traitement ou non, et se retrouver dans un petit cours d'eau, dans une plus grande rivière, dans un fleuve, et au final, éventuellement, dans l'océan.
Et qu'est-ce que l'étude que vous avez menée apporte de nouveau sur ces microplastiques ?
Alors, nous, ce qu'on a montré, c'est que, ben, à contrario de la plupart des études qui avaient été faites jusqu'à présent, qui se focalisaient sur les déchets. Donc les déchets, il faut savoir que c'est effectivement au niveau global la source majeure. On estime qu'il y a environ 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans comme un résultat de la mauvaise gestion de déchets plastiques.
Par an ?
Par an, oui, tout à fait. Donc c'est un flux de 8 millions de tonnes par an. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un flux additionnel de environ 1,5 million de tonnes par an au niveau global, qui provient donc de ces sources de microplastiques primaires issues de l'abrasion d'objets ou cosmétiques, donc textiles, les sources principales étant l'abrasion des textiles, des pneus, les cosmétiques, l'abrasion des peintures.
Et ces microplastiques sont encore peu pris en compte quand on parle de pollution des océans.
Alors ces microplastiques, c'est un phénomène dont on parle quand même de plus en plus, mais pour lesquels on n'a pas encore toutes les données pour bien comprendre d'où ils viennent, par où ils transitent et surtout où ils s'accumulent. Et ça, ce sont des éléments qui sont de compréhension qui sont nécessaires pour finalement trouver des solutions et essayer de réduire ce flux de plastique qui vient nourrir cette soupe de plastique dans les océans.
Et justement, alors dans votre étude, quelle solution vous préconisez ?
On pense souvent à une meilleure gestion des déchets. Il faut savoir que la majorité de ces plastiques viennent de pays et de régions où la gestion des déchets est mauvaise. Mais en premier lieu, avant de penser à traiter, il faut penser à réduire. Donc le principe des 3 R, donc de réduire, de réutiliser et de recycler le plastique et les déchets plastiques est toujours d'actualité. Donc la première chose, c'est moins consommer le plastique et le réutiliser, le recycler pour éviter qu'il sorte du système industriel et qu'il se retrouve dans l'environnement. Dans le cas des microplastiques, c'est un petit peu plus complexe parce que les sources sont diffuses. Donc ce n'est pas à un endroit en particulier, mais c'est, il faut bien s'imaginer, chaque voiture qui roule, à chaque kilomètre, des millions de kilomètres de route, il y a des petites particules qui vont s'éroder, à chaque machine à laver, les vêtements textiles vont s'éroder. Il faut savoir qu'un vêtement textile, ça perd 4% de son poids pendant sa vie. Donc, tous ces fibres-là vont se retrouver dans l'eau à des multitudes d'endroits différents. Et puis, en termes de solutions, je pense que là, on est dans un cas où il y a des réelles opportunités de mettre autour de la table les différents acteurs de ces filières pour trouver des solutions de filières, pas des solutions individuelles où le fabricant de machines à laver va trouver une solution, le fabricant de textiles va trouver une solution qui ne sont pas forcément compatibles. Mais l'objectif, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de mettre autour de la table les différents acteurs, donc les fabricants du textile, les fabricants des machines, les gestionnaires des systèmes de traitement de l'eau, qui pourront ensemble trouver des optimisations à faire pour réduire les pertes de plastique dans le système, dans sa globalité.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Dans quelques minutes, après le flash d'informations sur la radio du Monde, nous partirons en Sicile, où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le circuit court, la vente directe, en limitant les intermédiaires. À tout de suite.